J'y vais le pod numéro 109. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'y vais le pod consacré ce mois-ci au numéro 109 de J'y vais le mag, numéro spécial Summer Game Fest, notre numéro estival. Bonjour Christophe Butlet.
Bonjour Sophie Krupa.
Tu as l'air ravi hein, d'être là.
Bon, on est tous comme toujours.
Et bonjour Kevin.
Hey, salut.
Non mais en vrai la blague c'est qu'on est tous un petit peu
carbonisé.
Carbonisax.
Ouais.
Et puis, il nous est arrivé des petites aventures un peu rocambolesques. On va vous raconter un peu tout ça. Ce numéro estival, on va l'éplucher tous ensemble.
Mm-hmm.
Évidemment, une grande partie est consacrée
rapidement hein.
Au Summer Game Fest. Voilà, on sort que. Parce que nous, on a un hors-série Game Boy en plus à finir. Quand les gens nous demandent ce qu'on va faire pour les vacances. C'est pas encore tout de suite.
On fera pas un J'y vais le pod sur le hors-série ici.
Bah normalement si.
Bah, si. En octobre.
Oui voilà, on se sera reposé.
C'est vrai que je pense que ça serait quand même bien qu'on se repose à un moment. Là, vous nous trouvez pas dans notre meilleure forme. Mais bon, on est quand même content d'être là avec vous. Est-ce qu'on commencerait pas par inaugurer une nouvelle rubrique ?
Tout à fait.
La rubrique des remerciements. Oui, Christophe, toi qui fais un regard.
Oui, parce que t'étais aux toilettes quand on en a parlé tout à l'heure.
Vous venez juste de vous en souvenir, sinon non. On aurait oublié.
Non, on n'aurait pas oublié. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait le faire au début, parce que si on se disait on le fera à la fin, là par contre, il y avait risque qu'on dise au revoir avant de le faire.
Bien sûr.
Du coup, je vous propose qu'on fasse les remerciements au début. Et pourquoi est-ce qu'il y a des remerciements ?
Tout à fait.
Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être que vous êtes déjà abonné. On a lancé au mois de juin des nouvelles formules d'abonnement en passant par le site Ulule.
Oui, c'est écrit là.
Mais oui, c'est écrit là, regarde. Ulule, vous les connaissez peut-être déjà parce que c'est là où nous, on fait nos campagnes de financement de nos hors-séries ou de nos livres. Ils ont sorti au mois de juin une nouvelle formule d'abonnement mensuel, un peu sur le modèle de Patreon. Et du coup, nous, en juin, on a lancé cette nouvelle formule avec, entre autres, des formules d'abonnement numérique ou des formules d'abonnement papier et numérique. Et notamment, il y a la formule à 15 euros par mois, les fameux gens richis. Les gens richis, parmi leur contrepartie, ont le droit à voir leur pseudo remercié dans le podcast. Et c'est maintenant.
Allez.
Alors, merci Blinksurf, merci Chichounet, merci Gothic02. Merci
Hirobir.
Gothico 2.
Gothico 2, ah bah ça commence bien.
J'aurais dit ça.
Bah vas-y, bah continue.
Hirobir, La Mogne, Laurent Guéry, Montreuilloua.
Tu l'as bien, Montreuilloua.
Moreau Fred, Mister Burp, Papa Podcast, Quentin Lamami,
qui est un
doppelganger de Corentin Lamy.
Pardon à Quentin Lamami, mais...
C'est un nom à signer dans J'y vais le mag.
Ouais, c'est ça.
Et enfin, donc, Zadisik.
Merci à tous nos gens richis de nous faire confiance pour cette nouvelle version d'abonnement.
Je pense qu'on fera la blague sur Quentin Lamami tous les mois.
Évidemment, si Quentin continue à nous donner, bien sûr on fera la blague à chaque
il
fois.
Va arrêter.
Parce que là, il a le doigt sur le bouton.
Mais le jour où on aura 100 membres,
faudra dire
on citera les 100.
Bah, bien sûr.
Et puis que sur la page, comment tu maquetteras du coup,
je m'adapterai.
Ça t'inquiète pas, parce que ça va vite arriver, je pense.
Mais j'ai fait tomber un truc, tu vois,
Après des remerciements,
il y aura une page
pareil, tout le monde va vouloir...
On pourra peut-être en glisser au hasard des articles.
il y aura des noms au hasard.
Tous les coins.
Édité par Quentin Lamani.
Comme le disait le célèbre philosophe Moreau Fred. Eh bien oui, voilà, regardez, vos pseudos seront cités de façon totalement aléatoire. Écoutez, merci encore à vous. Et puis, On va continuer. Toujours pas de Jean Tourloup, hein, au bout d'un mois et demi de campagne.
Peut-être que c'était pas assez subtil, que les gens ont vu que c'était une entourloupe.
Non, je pense pas. Tu crois?
Bah, je sais pas. C'est Jean Tourloup, c'est pas entourloupe. Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
Moi, je... Ouais, écoute, on rappelle, Jean Tourloup, c'est le palier où pour 50 euros par mois, vous avez le droit de venir nous aider à porter des cartons. Et d'ailleurs...
bien vu.
Magnifique enchaînement.
Vous car... n'auriez pas été de trop.
On aurait bien eu besoin de quelques... On a toujours besoin de quelques Jean Tourloup. Car sachez que même ce JV Le Pod, même la réception de ces magazines, était fort compromise. On enregistre cette émission, on est vendredi. On devait recevoir... Nous, donc, pour expliquer, c'est un podcast où on explique un peu la fabrication du magazine. Donc, c'est plutôt le lieu. Chaque mois, nous, on se fait livrer une certaine quantité de magazines pour les mettre en vente sur notre boutique. Et quand vous les achetez, c'est nous qui les mettons dans des enveloppes et qui les emmenons à la poste. Et les magazines, on aurait dû les recevoir lundi. Lundi, il se trouve que, Christophe, au moment où tu arrivais à la rédac, tu m'as trouvé en train de débrancher notre box Internet, car on venait d'avoir une panne d'Internet. Et on est reparti aussitôt parce que manifestement il y avait une panne. Donc on était condamnés au télétravail jusqu'à une durée indéterminée. Notre fournisseur d'accès nous a dit.
Le 16 juillet à la base.
16 juillet. On était le 8. Donc déjà la journée commençait assez mal et à peine une heure après être parti, coup de fil du livreur qui nous dit je suis là pour vous livrer les mags. Et nous qui lui disons ça tombe mal parce que nous on n'est pas là. Déjà ça c'était la journée du lundi. Il a fallu. Plusieurs péripéties pour qu'on arrive à demander à faire changer l'adresse. On a demandé une adresse de livraison chez M. Kevin Bitterlin, ici présent.
Parce que je suis véhiculé et je pouvais ramener ensuite les cartons de magazine en voiture.
Kevin, tu es donc resté mardi chez toi en attendant qu'un livreur arrive. Tu es resté mercredi chez toi en attendant qu'un livreur arrive. Tu es resté jeudi chez toi en attendant que le livreur arrive.
Jusqu'à donc ce matin où je commençais à en avoir un peu marre, parce qu'on me disait tous les jours que ce serait aujourd'hui, mais je n'avais pas vraiment le suivi sous les yeux. Là, je récupère enfin le suivi ce matin, et ça dit que c'est en cours d'acheminement, donc ça devrait plus tarder. Je détourne les yeux 2 secondes, et ça me dit que c'est livré. que je dois remercier pour cela un certain Xavier, qui a bien réceptionné les colis, sauf que je ne connais pas de Xavier.
Non, et que manifestement, ce n'était pas livré.
Non. Et après enquête auprès du service TNT, donc le suivi client, on m'a dit que les cartons seraient environ 2 km de chez moi, dans une boîte de nuit. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Donc les magazines s'ambiançaient beaucoup plus que nous, en tout cas. Hein, nous, alors que nous, on était en train de cravacher et de poireauter, les magazines étaient en boîte. Et donc non, c'était... j'ai râlé auprès d'une IA, ce qui ne sert à rien, mais... alors c'est assez étonnant. Hein. Cette IA était vraiment très très courtoise.
Toi aussi, t'es tombé, parce que moi je les avais appelés lundi pour savoir pareil où ça en était. Et au début, j'ai cru que c'était une vraie personne. Ça décroche. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? Je commence à dire, écoutez, on n'a pas rien à suivre. Et au bout d'un moment, j'entends... Je n'ai pas compris votre question. Oh putain.
Alors que, non, franchement, moi c'est donc très vite. Donc ça te dit, je suis une assistance machin. Et franchement, non, c'était cool. C'était assez clair. Et donc elle dit oui, le site indique que c'est livré. Et je dis oui, mais ça n'est pas livré. Et là, ça me dit, ça m'a répondu, je suis tellement navré pour vous. L'IA, tu vois, l'IA recommence à avoir des sentiments.
Elle a passé le test de Turing sur cette phrase.
L'IA était vraiment désolée. Et donc, finalement, c'était juste un scan un peu prémédité, enfin pas prémédité, prématuré.
Prématuré.
Pardon, prématuré du livreur. On a fini par les recevoir. Je les ai portés fièrement dans l'ascenseur. J'ai mal au bras. et voilà. Donc,
au bout d'une semaine. Donc, c'est pour une fois, les abonnés au magazine l'ont reçu avant nous.
Oui.
Largement avant
et
nous.
Et pour toutes celles et ceux qui passent par nous, des fois, au service après-vente, en disant il y a des problèmes avec ma livraison et tout, ça n'arrive pas qu'à vous.
Oui, on sait. On sait.
On sait, des fois, c'est le bordel.
Mais donc, pour l'instant, on a quelques exemplaires à la rédac. Les autres sont encore chez toi, mais on va...
Oui, bon voilà. Mais disons que, c'était... Donc, j'ai quand même passé 3 jours avec la sonnerie de mon téléphone à fond, sans oser le quitter des yeux. et ni des oreilles, au point d'arrêter de me doucher, de ne plus aller aux toilettes. Oui. C'était terrible. C'était terrible. J'étais une locumène hyper stressée.
Mais ça, moi, c'est abominable. En plus, dans ce genre de cas, quand j'attends un truc, ça me paralyse. J'arrive pas à faire autre chose.
Non, mais alors...
c'est abominable.
Bref.
Mais voilà, regardez, on a vécu une aventure. Écoutez, on a enfin reçu ces magazines.
Très beau magazine.
Très beau magazine. Qu'y a-t-il dans ce numéro 109 de JV Le Mag? On le disait en ouverture, c'est le spécial Summer Game Fest. Mm-hmm. Du coup, bah, on y consacre une bonne partie du magazine. Les premières pages, on revient comme l'année dernière, c'est toi, Kevin, sur des grands moments, les moments absurdes, les moments mal à l'aise, le moment affreux.
C'est aussi pour ça qu'on prend souvent notre temps après le Summer Game Fest. C'est vraiment pour faire une analyse à froid. Si on avait encore la fougue de la jeunesse, on pourrait vraiment faire ce que font nos concurrents, c'est-à-dire vraiment un magazine qui sort peu de temps après pour vraiment surfer un peu sur la vague.
Nous, on est vieux et fatigués.
On est vieux et fatigués, et puis on aime bien, au-delà de parler des jeux qui ont été annoncés, on aime bien... essayer de raconter ce que ça dit du jeu vidéo. Et c'est vrai que donc c'est quelque chose qui va être assez constant dans ce cahier sur le Summer Game Fest. C'est de voir que c'était pas forcément hyper fun cette année. Et c'était même...
C'est un peu l'année de la déprime, ouais.
Ouais. Ou en tout cas, de la retenue. Donc voilà, ce premier papier, un peu façon mise en bouche, permet... De revenir sur des moments qui ne sont pas forcément liés à des jeux, mais plus sur des instants qui peuvent être soit cocasses, soit un peu marquants, sachant qu'il y en a pas forcément, il y en a eu moins que l'an dernier, je trouve. Mais bon.
Ouais, c'était peut-être un peu plus difficile cette année de réussir à trouver des.
Il y a eu moins de scènes,
oui,
j'ai
envie
de dire,
au
Summer Game Fest, du coup, moins de moments où ils invitent des acteurs sortis un peu de nulle part, ou des choses comme ça.
À part cette magnifique capture de Sam Lake en train de danser, que j'ai faite sur une vidéo YouTube, que je m'y suis surprise à 10 fois avant de réussir à choper la bonne frame. Donc... en couverture de ce JV, c'est ça que je voulais dire. On a choisi, tous les numéros d'été, donc on choisit un jeu parmi le 3 / Summer Game Fest, le jeu qui nous a marqué. Et ce mois-ci, du coup, Kevin, on a choisi quoi comme jeu?
Alors, on a choisi Clair Obscur Expédition 33. Ce qu'il faut dire, c'est que donc, le jeu a été annoncé pendant la conférence Xbox et qu'il a vraiment été très marquant parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était assez beau, c'était assez inattendu aussi dans la manière dont les informations ont été révélées. On voit d'abord que ça se passe à Paris, ensuite on voit qu'il y a un contexte un peu post-apo, fantasy, puis on voit que les combats sont au tour par tour, ce qui était dans une année où beaucoup, beaucoup de jeux étaient des Souls-like ou des Sekiro-like. Ça, c'était assez inattendu parce qu'il y avait tous les codes un peu du Souls, sauf que d'un coup, on voit du tour par tour. Donc voilà, il y a eu une sorte de triple surprise comme ça qui nous a paru. C'était beau, c'était intriguant. Et on s'est rendu compte ensuite que c'était français, fait par un studio dont on n'avait strictement jamais entendu parler. Et donc, ce qui rendait encore la chose un peu plus intrigante. Pour rappel, donc, l'an dernier, on avait choisi Jusant comme jeu du Summer Game Fest, qui était français aussi. Et qui
dans
avait aussi.
Chauvin, en fait.
Ouais, non, mais. En fait, ce qui était marrant, c'est que Jusant, ça annonçait la couleur, c'était Dontnod. On voyait un peu plus où ça allait. Là, il y a un vrai mystère autour du jeu. Et moi, à titre personnel, c'est sans doute le jeu qui m'a le plus saucé. Et au-delà de la curiosité journalistique, il y avait une curiosité personnelle aussi de savoir d'où venait ce projet comme ça qui était apparu assez out of nowhere. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir s'entretenir un peu avec donc Guillaume Broche, qui est game director, pour en savoir plus sur l'origine du projet, sur son parcours à lui aussi. Après avoir échangé avec cet homme, je suis toujours aussi intéressé et intrigué par le jeu. Donc c'est pour moi, à titre personnel, en tout cas, j'engage la rédaction, tel un président de la République. pour moi, c'est en tout cas le jeu le plus intéressant du salon. Enfin, des conférences.
Et on sait quand est-ce qu'il va sortir, ce jeu ?
Pas encore. Il n'y a pas de date. Le projet, en fait... Le projet a été un peu rebooté, mais c'est surtout qu'en fait, il a été... il a eu différentes étapes au niveau de l'investissement qui ont permis d'élever le scope. Ouais. Donc, je crois que la version... telle qu'elle sera, a vraiment débuté il y a environ 2 ans. Donc, je pense qu'il y a encore au moins une grosse année de prod.
Oui, parce que ça, c'est un studio indé qui fait ça.
Alors, c'est indé, c'est toujours pareil. C'est compliqué. Il y a un éditeur. Un éditeur anglais qui a aidé au financement et qui s'occupera de tout ce qui va être marketing. Donc, c'est Kepler. Kepler, c'est un petit éditeur anglais, mais qui a le nez fin ces dernières années. On a vu, ils ont fait des paris comme ça qui étaient plutôt malins au niveau de l'édition. Ils ont fait, Chia.
Shifu, Chia, ouais. Ultros.
Ultros, c'est ce que je cite. Et donc voilà, c'est des petits projets comme ça qu'ils ont repéré. Ouais. La relation, elle s'est nouée dans une GDC, comme souvent. Oui. Donc, il y a un éditeur.
Et le studio de dev, c'est Sandfall Interactive.
Il s'appelle Sandfall Interactive. Ils sont entre Paris et Montpellier, certains en télétravail, mais disons qu'ils sont basés à Montpellier et ils sont une trentaine sur le projet actuellement.
De toute façon, c'est un jeu, je pense qu'on continuera à suivre, évidemment. Ensuite, c'est toujours toi, Kevin. On parle justement du un mois de juin sous le signe de la Grande Dépression. Voilà le titre de cet article. Et une magnifique capture de notre ami Geoff Keighley qui fait une tête pas possible.
Non,
C'est vrai que cette année.
Donc, oui. Enfin, non, vas-y.
Non, vas-y.
Non, mais je dis que après les deux premiers articles qui sont là, un peu sont des marronniers, c'est-à-dire le jeu du Summer Game Fest et les moments comme ça, la petite panoplie. Là, on attaque les articles qui vont essayer d'analyser et de décortiquer le salon. Et c'est vrai que moi, comme je le disais tout à l'heure, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment celle de cette espèce de retenue générale que j'essaye d'analyser ou tout du moins de justifier en expliquant que le contexte n'était pas propice à la gaudriole avec notamment toutes les crises que traverse l'industrie et puis aussi parce qu'on est dans une période un peu de creux générationnel au niveau des cycles de consoles.
C'est aussi les jeux qui sortent maintenant, c'est les jeux qui ont été produits pendant le Covid. On est encore sur la fin de cette... Il y a quand même cette ambiance-là, quoi.
Ouais, voilà. Donc voilà... Tout ça mis bout à bout, moi j'ai trouvé, alors on peut très bien ne pas partager ce sentiment, mais que non seulement du point de vue formel au niveau de la com, il y avait de la retenue, mais même au sein des projets en tant que tels, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mélancolie et de choses comme ça traitées avec une certaine gravité. Donc voilà, donc c'est une petite analyse avec, comme on fait souvent, des focus qui sont là pour illustrer le propos. Là, j'ai choisi Mio, Memories in Orbit, donc un projet c'est encore un jeu français, le studio 12 dixième, qui avait fait chez Lee Part of Me il y a quelques années, qui est une sorte de, enfin, qui va prendre la forme d'une sorte d'Ori, mais avec un petit robot, et Wonderstop, qui illustre encore plus sans doute cet état d'esprit, puisque donc on retrouve les responsables de The Beginner's Guide, dont on sait que donc Davey a traversé lui-même des épisodes de dépression et son projet de jeu a été avec peut-être Clair Obscur l'un aussi des grands moments je trouve au niveau des bandes annonces.
Moi je sais qu'il m'a pas mal marqué
parce que c'était assez malin la manière dont la narration était faite au sein du trailer donc Wonderstop l'autre jeu.
Le trailer te montre un jeu très très coloré, chatoyant, dirais-je.
Oui, où tu suis.
Qui commence comme un jeu qui peut être
de farming aussi, En gros, on suit une jeune femme qui s'occupe d'un salon de thé à la campagne.
Voilà. Et tu te rends assez vite compte que
qu'en fait elle a des...
Elle cherche à fuir quelque chose.
Oui, ou qu'elle est là plus ou moins dans, une, dans le cadre, comme on pourrait être dans une maison de repos, ouais. Mais que tout n'est pas réglé.
Mais donc pareil, moi je suis assez intrigué, il est en haut de ma liste, Wonderstop. Et pareil, très beau, comme Mio, qui est, dont tu parlais avant, qui est aussi très beau.
C'est
assez, assez étonnant aussi, tous ces jeux qui ont un vrai, une vraie différence entre des graphismes assez, assez colorés et un propos...
Bah, si je ne dis pas de bêtises, plus Mio, c'est peint la main, quoi. Enfin, chaque...
Ah ouais.
Il me semble. Hein. Enfin, ça, en tout cas, c'est l'effet que ça...
Oui,
que
oui,
ça,
ouais. Ça... C'est très...
Donc après, on a fait pas mal de, on a essayé d'analyser en gros toute cette suite de conférences. Mmh. On avait repéré notamment la montée en puissance de la production chinoise.
Ouais.
Donc on a fait un article comme ça. C'est Jules qui s'en occupe pour essayer de regrouper tous ces projets divers et variés qui viennent de Chine. Quoi d'autre?
Bah, les jeux d'horreur, Arnaud qui,
ouais,
qui ça... a bien aimé se faire peur, a priori.
Ouais, en fait, c'est surtout qu'on a vu l'apparition dans le marché vidéoludique de Blumhouse, donc la société de production américaine de films d'horreur, quoi, qui s'est fait connaître à l'époque avec Paranormal Activity, puis avec les The Purge, les American Nightmare, c'est comme ça en français.
American Nightmare en français.
Ouais,
toujours ces traductions.
Comme les sexes intentions.
Oui, voilà.
Blumhouse, donc voir hein, comme ça un éditeur indépendant de cinéma, ouais. Ça rappelle un peu ce qu'a pu faire Annapurna. Mm. Et Annapurna, on va dire qu'il y a 90% de ce qu'ils ont fait était vraiment bien au niveau du jeu vidéo. Il y a eu 2-3 scories, mais globalement, c'est hyper intéressant. Donc, on espère que Blumhouse arrivera à se mettre au même niveau, sachant que là, ils ont présenté vraiment très, très rapidement différents projets, tous assez différents. Alors, tous qui est au niveau... Enfin, tous dans le registre de l'horreur, mais très différents visuellement. On peut avoir presque du pixel art, on peut avoir un rendu un peu le poly très PlayStation 1. Ouais. Et surtout, sous cette bannière-là que sortira le prochain jeu de Sam Barlow. Pour l'instant, qu'on connaît sous le nom de code Project C.
Project C. Et oui, bah pareil, là, tout le monde a été assez hooked, assez intrigué.
Ouais.
Je relis en même temps, regardez ce blanc incroyable, j'essaye de meubler.
Non, mais là on arrive sur le plus long chapeau du monde.
C'est vrai.
Ouais, il est superbe.
Tu sais que moi les pigistes, quand ils font ça, je les engueule. Hein.
Ouais,
mais je suis pas pigiste.
Le mec est rédacteur en chef adjoint, il a le droit de faire un chapeau de 14 lignes, quoi. Ok.
On précise que chapeau, ce sont les intros. Les intros.
Oui, le texte qui est entre le titre et l'article.
H-A-P-O.
Oui.
Des chapeaux.
Normalement, ça fait aller 3 lignes max.
Il n'y a pas de normalement.
Si.
On peut laisser la place à l'inspiration parfois.
Bon, de quoi parles-tu dans cet article,
Eh ben, je me suis intéressé un peu aux différents direction artistique que les jeux ont pu prendre, parce que enfin c'est toujours un peu compliqué de tirer des tendances quand t'as 300 jeux qui t'arrivent sur la face en 4 jours, quoi. Mais on finit par remarquer que voilà, quand il y a un jeu qui te marque un petit peu plus, c'est peut-être parce que bah visuellement il se détache du reste, et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de jeux qui se ressemblent aussi, donc voilà, on voulait un peu peut-être saluer ceux qui arrivent à sortir du lot. Et
c'est d'autant plus important dans un cadre comme celui-ci, en fait, où, comme tu le dis, il y a 400-500 jeux qui vont t'arriver sur la tronche.
Je pense que c'est en effet une bonne façon de faire, enfin, surtout pour un événement où tout est visuel et se base sur des vidéos de voilà, 30 secondes, 1 minute... Bah, il faut marquer le joueur, et je pense que c'est visuellement que ça marche le plus. Et voilà, et donc bah, j'ai essayé de recenser un peu les jeux qui m'avaient marqué, et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une inspiration qui venait pas mal de la BD et pas mal de jeux et de studios faisaient appel à des auteurs de bandes dessinées pour créer le rendu visuel de leur jeu, quoi. Et donc voilà, c'était une petite tendance dans la tendance, on va dire. Et puis après, voilà, essayer de déceler les petites pépites qu'il y a pu avoir à droite, à gauche, quoi.
Et du coup, en focus, tu reviens sur Phoenix Springs.
Ouais, bah, qui est mon... Moi, je pense que c'est mon coup de cœur du salon. Ouais. Enfin, du salon. Ouais, du Summer Game Fest, quoi. Enfin, visuellement, je trouve ça vraiment... pour le coup, j'ai jamais vu un autre jeu du même acabit.
Le trailer, en plus, c'était incroyable parce que, justement, on voyait différents... Enfin, c'était très cut au niveau des changements de panorama et du coup, d'ambiance, de couleurs. Et chaque plan était plus sidérant les uns que les autres, quoi.
Et ouais, je suis assez curieux de voir ce que le jeu réserve. Les créateurs annoncent un truc assez surprenant aussi, parce que là, ça a l'air d'être un point and click, mais voilà, ça a l'air d'être un peu plus que ça, et du coup, je suis assez curieux de voir ça. Ouais.
Donc ouais, Phoenix Springs, et ça sortira cet automne, en septembre. Ouais. Et sinon, tu reviens aussi sur Tom the Post Girl.
Ouais, donc ça, c'est...
Ah, ça, visuellement, je trouve ça incroyable.
Visuellement, ouais, c'est vraiment une sorte de dessin... presque griffonné pour les noirs et tout ça, et vraiment, ouais, tout est chelou et vraiment l'univers a l'air assez macabre et tout, avec une fille qui fait des livraisons et qui surveille ses voisins en même temps et
mais tu sais ce que ça évoque,
des choses horribles
tu sais dans les films d'horreur quand il y a une histoire de possession machin et que ils emmènent l'enfant chez le psy et ils se retrouvent à dessiner un truc,
tu découvres le dessin minutes après
c'est ça, et d'un coup en fait tout était dans le dessin avec un monstre et tout, et ça m'évoque ça,
c'est vrai.
Oui, non, mais là il y a t'as une baignoire chelou pleine de sang, une tronçonneuse à côté, des sœurs siamoises, enfin tout est réuni, quoi.
Mais en même temps, toujours des regards, tout le monde est souriant.
Mais il y a l'air d'avoir un côté décalage assez fort, quoi. On a envie de voir ce que ça donne.
On enchaîne avec un article où c'est Yael qui nous parle un peu des nouveaux rendez-vous, des rendez-vous spécifiques français qui commencent à apparaître, notamment avec Actu Gaming qui un peu prend le devant du Summer Game Fest et organise une sorte de propre conférence. Donc voilà, c'est une occasion de se demander si à terme on pourra vraiment voir émerger une sorte de rendez-vous par exemple là il y a eu le Latin American Showcase. On pourrait avoir peut-être un événement majeur dans le Summer Game Fest qui soit consacré uniquement aux jeux français, quoi.
The French Salon
omelette du fromage.
Franchement. Mais
parce qu'ils ont volonté de s'inscrire dans le Summer Game Fest, ou ça resterait un événement qui se passerait peut-être un poil avant?
Là, ça se passait un peu avant, justement. Je pense que ça permettait de sortir un peu du lot et de montrer déjà des jeux. Après,
tout en profitant quand même.
Après, il y avait beaucoup de jeux français qui ont choisi d'être pendant l'événement majeur et d'avoir une meilleure caisse de résonance, mais à terme ça pourrait être intéressant. Et puis tu vois, il y a des jeux qu'on a vus dans les deux cas, quoi.
Oui, ça empêcherait pas. Ok,
mais c'est vrai que ça serait pas
que les deux cohabitent,
ça serait pas fou. Enfin, l'industrie française est assez florissante. Ça dépend si tu te situes du côté des actionnaires ou du travailleur, évidemment.
Non, mais c'est...
Mais enfin, je veux dire que c'est une industrie puissante en France.
Carrément.
Il n'y a pas de raison.
On essaie d'avoir de plus en plus de rendez-vous vraiment respectables autour de la production française. Et je sais qu'à un moment, quand ils faisaient leurs cérémonies, qui ont été les Ping, les Milton, maintenant c'est les Pégases, ils avaient volonté comme ça de faire un peu de promo. Et l'édition de cette année, je crois qu'il y a eu un seul trailer d'un jeu futur, c'était les fourmis. Ça a été montré en deux secondes avec un teaser. Je pense qu'il y a la place pour ouais. faire vraiment un, voilà, que quand on fait nos plannings de toutes les conférences du un peu estampillé Summer Game Fest, il y ait ce rendez-vous un peu franchouillard.
Un peu franchouillard. Cool. Mais pourquoi pas? Ah oui, ensuite, bah, Yael a continué avec un papier qui essaye de remonter un petit peu le moral.
C'est ça.
En se disant que oui, il y a quand même eu des petits moments, des petits jeux un peu plus joyeux, plus légers.
Ouais, des jeux et puis même des, on va dire, des moments vraiment positifs. Je me rappelle qu'on en avait parlé assez vite. Un des rares moments vraiment, on va dire, qui pouvait réchauffer le cœur, c'était donc, je retiens jamais, le studio derrière Among Us.
Inner Sloth.
Inner Sloth, voilà, qui est venu sur scène pendant le show de Geoff Keighley pour annoncer que ils avaient envie de faire ruisseler tout l'argent qu'ils avaient gagné avec Among Us en aidant des jeux indés, surtout des jeux faits par une seule personne.
Ouais.
Et comme ça, de leur filer un coup de main, pas forcément pour les éditer et engranger des royalties derrière, juste pour faire circuler comme ça l'argent. Et a fortiori dans la conf de Jeff, qui est quand même celle où on balance du Amazon et
puis qui est corpo en diable.
Voilà, c'était. Et puis, on sait aussi que c'est les interventions, chaque minute et chaque seconde de où on occupe le terrain médiatique pendant cette conf, ça se monnaie très cher.
Ouais.
Ils ont choisi, eux, d'utiliser, de payer pour dire qu'ils allaient donner de l'argent. Donc, il y avait doublement quelque chose de très altruiste là-dedans.
Ah oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment la nouvelle qui a détonné, mais dans le bon sens.
Voilà, donc c'est un papier un peu pour ça. Et puis, très qui revient aussi sur... qui parle... on va dire, du côté très fanboy qu'il peut y avoir dans cette industrie. Comme, par exemple, on voit un jeu comme Perfect Dark. Moi, Perfect Dark, je m'en fous depuis... Enfin, voilà, ça n'a jamais été ma cam, tu vois.
Oui.
Mais le fait qu'il apparaisse, qu'on le voit, il y avait quelque chose de...
Oui, le plaisir cool, de retrouver licence qu'on a aimée.
Voilà, ça raconte un peu tout ça, cet article. On parle... d'un truc qu'on a un peu évoqué aussi tout à l'heure.
Oui, on parlait des esthétiques tout à l'heure et il y a quelque chose qui revient beaucoup, là c'est Arnaud qui en parle, c'est le retour de l'esthétique PS1.
Ouais, c'est...
Mais ça, c'est vrai que...
C'est que toi, t'en parles souvent en disant que
Ah, mais c'est abominable.
Mais oui, voilà.
Mais pour moi, c'est l'équivalent du Jintai Bass des années 2000. Enfin, vraiment, c'est abominable.
Ouais, mais après, donc, comme toutes les modes, et puis comme tout rétro, ça finit par arriver.
Non, mais c'est marrant de se dire que ça y est, on est assez vieux pour que cette image de 3D dégueulasse, ça évoque de la nostalgie chez des gens.
Et puis, pas forcément... On pourrait se dire que ça vient avec, au-delà de la direction artistique et des graphismes, ça vient avec aussi toute une vague de jeux. Faire une son Resident Evil, ça implique d'avoir... Mais pas seulement, en fait. Ouais. C'est pas que pour faire du survival horror avec caméra fixe. Et on en reparlera peut-être, mais voilà, par exemple, un Building Relationship.
Je pense à ça,
sans doute un des jeux les plus improbables qu'on ait vu.
Donc c'est un dating sim avec des maisons. Voilà. Des immeubles, des bâtiments.
Et si c'était qu'un dating sim, en plus, c'est un peu tout et n'importe quoi, en fait. Donc, et ce jeu-là, qui est très bizarre, est aussi avec un look comme ça, PS1.
Après, c'est des faux looks PS1, en vrai, en fait, mais comme le rétro, quoi, comme le pixel art, comme toutes ces esthétiques rétro. Mais c'est vrai que c'est marrant de... j'ai un peu peur de ça, vraiment, pour choisir... Je suis encore traumatisé de tous ces choix d'images, tous ces hors-séries qu'on a fait sur des consoles.
Mais ce sera pas baveux, là.
Là, voilà. J'essaie de me rassurer. Quand même. C'est de la PS1, mais HD.
Ouais, et sans le lissage vraiment dégueulasse qu'il peut y avoir dans les versions HD, quoi. Tu vois, où d'un coup, t'as une texture toute nette avec des gros pixels. C'est affreux.
Non, mais c'est marrant. Écoutez, ça sera quoi la prochaine mode vintage?
Au bout d'un moment, le truc, c'est que plus on s'approche du photoréalisme...
Moins il y a ce côté-là. Ouais. On va revenir à Pong. Écoutez, Oui, alors avant de terminer tout le dossier avec nos sélections de jeux, on a une petite partie reportage, dites-vous bien. C'est Fanny qui est partie en Pologne.
Oui.
À Varsovie. Ça arrive assez peu. Non, j'essayais de faire une blague, mais non.
C'est vrai que ça nous arrive assez peu de partir à l'étranger.
Oui, on va assez peu partir en Pologne. Non, mais c'est le trajet inverse de mes grands-parents. Écoute.
Ah oui, c'était ça, t'as voulu. Oui, oui, on a eu une opportunité d'aller rencontrer le studio 11bits, qu'on en connaît avec Frostpunk, notamment. Et comment ça s'appelait je ne sais plus le...
This War of Mine,
tout à fait. Et donc, il planche sur Frostpunk 2 et aussi sur The Alters, que j'avais vu à la Gamescom l'an dernier. Et du coup, effectivement, on a envoyé notre reportrice de choc, Fanny, qui est partie là-bas pour essayer ces nouveaux jeux, mais aussi s'entretenir avec les fondateurs et responsables du studio pour... Parce que, voilà, dans un numéro où, encore une fois, on a souvent parlé du fait qu'il y avait beaucoup de mélancolie et un peu de déprime, bon, les jeux d'11bits, ils sont quand même... C'est pas la
joie.
C'est pas la joie. Hein.
Tu préfères sacrifier les vieillards ou les enfants?
Ouais. Même si, bon, The Alters, il y a un côté un peu bizarre qui peut être un peu drôle, mais bon, ça part quand même d'un
Un postulat
assez dramatique. Donc voilà, on a essayé. Enfin, en tout cas, Fanny raconte un peu son périple et nous explique un peu la philosophie de ce studio.
Et donc, comme je disais, pour terminer ce dossier, comme les autres années, on termine par des sélections de jeux qui nous ont marqués, tapés dans l'œil, qu'on a répartis en trois catégories. Donc, il y a les « On y joue Day One ». Où ça, c'est sûr, on sera là. On sera là, évidemment. on garde un œil dessus pour les jeux qui nous ont interloqué.
Interlopé.
On peut garder ça. Et les on attend de voir, où là, on a peut-être un petit peu plus de réserve, tout en quand même gardant une certaine curiosité.
De la réserve ou trop d'incertitude à ce stade. Voilà.
Est-ce que vous, il y a un jeu sur lequel qu'on a cité là, sur lequel vous voudriez revenir?
Oh, la question piège.
Ah bah oui. Déjà, qu'est-ce qu'on y joue des One, moi déjà. Qu'est-ce qu'on y joue des One, moi déjà, sur la première page, il y en a déjà trois, moi.
Oui.
Tiens, si, Christophe, tiens.
Moi aussi, il y en a trois.
Non mais tu sais, qu'on reparle de Battle Vision Network.
Bien sûr.
Parce que ça, c'est pas forcément, ça fait pas partie des gros jeux. Je sais que c'est un jeu où toi et moi, on est assez sauce axe.
Oui, je pense qu'en effet, que c'est un peu passé, peut-être pas inaperçu non plus pendant le Summer Game Fest, mais c'est pas le jeu sur lequel les gens sont revenus le plus. Mais moi, oui, c'est un jeu que. Enfin, c'est un jeu, j'y ai pas encore joué, mais voilà, c'est Capybara Games qui développe ça et c'est eux qui avaient fait le génial Might and Magic Clash of Heroes.
Génial.
Donc, qui mélange un peu le match 3 et le jeu de stratégie.
Ouais.
Et voilà, il faut faire des verticales ou des horizontales pour attaquer ou se défendre. Et c'est un jeu que j'adore et pareil, que j'ai jamais retrouvé depuis ce jeu-là.
L'équivalent, ouais.
Qui est pas trop disponible. Enfin, je crois qu'il est sur Steam, mais.
Mais moi, je crois que tu sais que la version.
Moi, j'ai envie d'y jouer sur mon téléphone.
La version que j'ai sur Steam, elle est même plus en vente.
Ouais, c'est.
quand tu cliques sur, tu sais, page du magasin, le jeu n'existe plus.
Ouais, non, mais il a l'air difficilement accessible.
Et j'avais racheté, moi je l'ai deux fois, je l'ai sur PC et sur DS, je crois même pas 3DS, sur DS. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a envie d'y jouer sur téléphone.
Là il l'annonce notamment, je crois, sur... sur Netflix,
Battle Vision Network, donc c'est le nouveau jeu de Capybara Games qui, alors, reprend pas du tout l'univers de Might and Magic, mais par contre reprend a priori le gameplay.
Oui, ça, de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Il y aura sans doute des petites nouveautés, des choses comme ça, on verra.
Nous, on est déjà là, on y joue Day One.
On y joue Day One, clairement.
Peut-être qu'on pourrait. Il y aura du versus, tu crois?
Des choses vont se régler.
Mais sinon, on a mis quoi? On a mis le prochain Zelda quand même. Bien sûr, Echoes of Wisdom, c'est quand même l'annonce qui a pris un peu tout le monde de court. Enfin.
Bah oui, non, c'était quand même une. Enfin, oui, personne n'avait entendu parler de ce jeu-là. On s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait un nouveau Zelda, même si. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un petit Zelda, mais.
Ouais, c'est un petit Zelda, mais c'est un Zelda quand même.
La proposition, on sent quand même que ça a été travaillé et que ça promet des choses assez folles aussi au niveau du gameplay. Mais oui, c'est vrai que c'était une surprise. Enfin, on a souvent l'habitude de dire que les Nintendo Direct, depuis un petit moment, sont assez. Fade.
Ouais, bah là.
Là, il y a eu ça, il y a eu le Metroid qui a enfin eu des images. Ouais.
Enfin, moi, le nouveau Mario Luigi, c'est pareil.
Mario
Sachant que le studio qui les développe a fermé ses portes il y a quelques années, moi j'avais fait un peu mon deuil alors que c'est une saga que j'aime beaucoup. Là, on nous annonce qu'il y en a un nouveau, moi, j'étais aux anges. Donc, oui, non, ils ont été quand même assez balèzes, Nintendo, cette année. On garde un œil dessus, on revient sur quoi vous voulez revenir. Il y a
Jusan, le remake.
Je pense que c'est affreux donc pour Kern, le jeu de The Game Bakers, qui va devoir justifier tout le temps. Mais non, on n'est pas Jusan.
Oui, en plus. Pour le coup, à part l'escalade, il n'y a pas grand-chose.
Non, il n'y a pas grand-chose. Même visuellement, il se démarque assez facilement. Et puis oui, ça a l'air d'être, pour le coup, vraiment une simulation d'escalade. Ouais, ouais. D'où le côté on garde un œil dessus parce que j'ai peur que ce soit un peu relou de devoir s'arrêter pour boire un coup, manger entre deux.
Tu crois ?
Bah il y a vraiment cette idée là.
Oui, bien sûr.
Enfin moi je sais que c'est des mécaniques qui me plaisent pas. Donc mais après si ça vous plaît.
Non mais vous verrez nos choix et n'hésitez pas à les remettre en question. Hein.
Ouais, bah, y a Screen Band, on attend de voir, que moi j'aurais mis Day One, mais Kevin s'y est opposé.
Ah bon. Ouais, carrément.
Non.
Donc Screen Band, c'est le jeu.
Ah oui, mais c'est parce que j'ai vomi.
On joue un personnage qui tient une console de jeu. Et donc, c'est compliqué à
le dire.
On joue le même jeu dans la console, mais c'est un jeu en 2D.
En 2D, voilà, c'est comme une sorte de Game Boy. Et donc, il faut se déplacer dans un univers 3D qu'on voit sur un autre écran en 2D. Je suis un peu Team Kevin, moi. Je crois que j'ai reboulé.
Bah, moi, je trouve le concept génial. Mais après, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que. Enfin,
ce
que j'arrive pas à savoir, c'est.
On attend de voir.
C'est si on jouera en 3D ou que dans la Game Boy ou pas, ou les deux, et comment ça. Voilà, mais
T'attends de voir.
Ouais, j'attends de voir.
c'est vrai. Il est parfaitement placé.
Mais j'y jouerai quand même Day One.
tu verras Day One. Oui, écoute.
Prends un petit peu de paracétamol sur le côté. Là, c'est là où j'ai mis. Moi, j'ai mis Dragon Age dans cette catégorie-là parce que, en vrai, c'est, évidemment, le prochain Velgard, moi, je l'attends avec impatience et avec méfiance à la fois, sachant que. Le développement a eu l'air d'avoir été chaotique en diable, que la plupart des gens qui ont créé, qui ont bossé sur Inquisition sont partis dans des conditions où on n'est pas tout à fait sûr que ça soit bien passé. Et en même temps, on a vu le trailer et on a vu un peu de gameplay et ça m'a quand même... mine de rien, donc pareil, il va sortir cet automne. Et là, moi, c'est pour celui-là. J'ai peur d'être déçu, en fait. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'être triste. Mais oui, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Et ben voilà, regardez tout ce Summer Game Fest, mine de rien, on l'a bien épluché.
Ah ben c'est la moitié du mag.
C'est la moitié du mag et
c'est vrai.
On va peut-être aller un petit peu plus vite sur le reste du magazine parce que je vous rappelle, on a du travail nous encore. En portrait ce mois-ci,
Joko qui va bientôt jouer.
Evie Koronen, la senior narrative designer chez Housemarque. Qui a été interviewé par toi, Kevin ?
Ouais. Alors, pour cela, je dois remercier une lectrice qui vit à Amsterdam. Hein. Voilà.
Elle se reconnaîtra.
Elle se reconnaîtra, qui m'avait parlé de sa rencontre avec cette femme. On me dit qu'elle était hyper intéressante. Et donc, ça remonte à quelques mois. Et donc, j'ai pris des renseignements. J'ai envoyé des mails à droite et à gauche pour essayer de l'avoir en interview. Et donc, ça a pris du temps parce qu'elle est très occupée. Mais pour une fois, c'est un papier qui a été fait au long cours. Quoi. Je pense qu'il y a eu 6 mois entre le premier contact et l'écriture. Et Evie Koronen, son parcours hyper intéressant. On a pu voir son travail de narrative design sur Returnal, on va dire assez récemment. Et ce que j'ai vraiment retenu de nos échanges, c'est son amour pour les langages.
Ouais.
En fait, et ça, c'est assez passionnant. Son rêve, c'est vraiment d'essayer, comme a pu le faire Tolkien, oui, par exemple, voilà.
De créer une langue.
Voilà, de créer une langue. Et elle a un peu tutoyé ça avec les glyphes dans Returnal, donc, que tu peux décrypter au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, on a parlé un peu de tout ça. Un parcours hyper intéressant. Evie Coronen.
Mais oui. En critique, ce mois-ci, Still Wakes the Deep, par exemple, Christophe.
Oui.
Alors, celui qu'on appelle mille fois résiste, mais qui ne doit pas se dire comme ça, mais...
Est-ce qu'on dit X, Cross, ou
Time,
je sais pas,
X...
Ou...
Enfin bon,
vous voyez
ce jeu-là.
Thousand X.
Bah écoutez, Yael l'a bien aimé. On parle aussi de Lorelei and the Laser Eyes, incroyable. Voilà. Alors, Multiversus, moins incroyable. Voilà, plein de jeux comme ça. Et puis un petit DLC un petit jeu, Elden Ring. Oui, oh là là.
T'as changé la maquette, non, des...
Ah, t'as remarqué.
Ouais, c'est sublime.
T'as remarqué, c'est faux, vous avez pas remarqué ce que je voulais dire.
Si, hein.
Bah, c'est vrai.
Non, mais vraiment, c'est bien.
Je me souviens que tu l'avais dit.
Ouais.
Mais quand j'ai refeuilleté, je fais ah, il y a un truc qui m'a.
C'est enfin
changé.
Beau, tu m'as dit.
dans ma tête, j'ai dit ça, ouais. Je me suis dit, ah, mais
t'as dit, oh, c'est
beau cette fois.
T'as dit, c'est pas aussi dégueulasse que d'habitude.
Elles sont bien les critiques cette fois. Et je me suis rappelé qu'en effet, je me suis dit, ah, bah ouais, c'est vrai que ça marche bien.
J'ai juste agrandi l'image. Mais
oui, mais parfois.
Oui, mais je sais pas pourquoi j'avais pas fait ça depuis le début. Voilà. Petite. C'est un peu l'effet de « Ah, t'as changé de coupe de cheveux », ça fait toujours plaisir. Évidemment, qui dit numéro estival dit des pages pour Bubu, des pages de Mobubile.
Oui.
Là, t'as pu 18 jeux, t'as sélectionné cette année.
Tout à fait,
18
ouais.
Jeux mobiles sur lesquels t'es revenu. Donc, c'est des jeux dont on n'a pas parlé dans le mag.
Pas du tout, ouais.
Cette année.
Ouais, c'est des alors, petits jeux que... Vas-y.
Bah non, Katana Zero, on en avait déjà parlé, ouais, parce que ça, c'est un jeu...
J'ai fait une... Enfin, oui, c'est compliqué, parce
c'est la version mobile.
C'est ça, ouais. C'est la version mobile. Il y a des jeux qui, parfois, sortent un peu plus tard sur mobile, et parfois, je m'autorise à en parler si on n'en a pas trop parlé
oui,
ou quoi.
Ça, ouais.
Bon, là, c'était plus pour faire un truc sur le catalogue Netflix, et notamment ce jeu, parce que... Enfin, pour moi, c'était inadaptable sur mobile et ils ont fait un truc assez ouf.
Ouais. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait.
Voilà. Mais sinon, oui, la plupart du temps, c'est des trucs dont j'ai jamais parlé.
Et donc, tu parles de...
Numéros.
Quand même,
tu
as joué à Les Aventures Crayola. Moi, ça m'a un petit peu étonné.
J'ai pas joué hyper longtemps non plus. Mais oui, de quoi voir le truc. Et ouais, non, c'était... Enfin, pour les plus jeunes, je pense que c'est vraiment un chouette jeu, quoi.
Tu penses à tout le monde.
Bah, c'est beau, oui. Hein, c'est ça. Hein.
Non, mais moi, tu sais, après avoir lu ça, j'ai essayé Picoubo.
Ah oui, bah, le petit Picross 3D.
Picross 3D, c'est toujours sympa. Écoute. Toujours sympa à voir dans sa besace. En rejouer, le 20 ans après... ta rubrique préférée, Kevin, ce mois-ci, c'est Crusader Kings.
Le tout premier.
Qui est sorti il y a pile 20 ans.
Ouais.
Et alors, je me suis régalé sur les captures. Hein.
Ah bah, oui.
Mais ça, j'ai envie de dire que même le Crusader Kings 3, c'est pareil, en fait, c'est pas des jeux télégéniques, enfin photogéniques.
Bah ouais, encore si on arrive vraiment à lire, hein, tu vois, genre si à l'écran, t'as une info un peu débile, sur une péripétie.
C'est des cartes et des pop-up et des... mais écoute, c'est superbe.
Ouais, mais ce qu'il faut retenir, en gros, de cette double page, c'est que... Nous avons, pour la première fois, dans le 20 ans après, dans la revue de presse, nous avons quelqu'un vraiment du lore JV qui a fait une critique de Crusader Kings il y a 20 ans. Et, parce qu'on avait déjà parlé de Grut.
Ouais.
Grut, lui, a 20 ans. Il y a 20 ans...
bossait déjà chez Joystick.
Voilà. Mais là, on a une critique écrite pour la première fois. Donc, on vous laissera découvrir ça. Quelqu'un de la diaspora JV qui est cité dans le 20 ans après.
Oh là là, putain, le vieux... On avait tous peur que ça nous arrive un jour. Hein, ouais. Ben voilà.
Mais on en plaisantait au début, on disait, ah, j'imagine un jour, machin. On s'en rapproche dangereusement.
Ça commence à être de moins en moins rigolo. En try again ce mois-ci, Trails, oui. C'est Corentin. Corentin Payassard qui revient sur.
Qui revient et qui nous explique.
JRPG, hein, oui, c'est ça, parce c'est que ça. Moi, je connaissais donc, rien du tout. Hein.
Effectivement, dans la rubrique Try Again, en général, on parle.
Je pensais que c'était le jeu de moto, moi, au début.
Mais voilà.
À une lettre.
Oui, non.
Imagine tous ces gens dyslexiques qui ont été très déçus.
Justement, en fait, d'habitude, dans le Try Again, on parle d'un jeu en particulier. Là, c'est vraiment l'occasion de découvrir toute une franchise assez méconnue, pourtant qui existe depuis un moment, qui a une palanquée d'épisodes et qui a vraiment des fans hardcore. Donc voilà, il a eu carte blanche. Ça se trouve, il dit n'importe quoi, mais...
Personne n'a pu vérifier. Hein.
C'est ça.
Et c'est bien la première fois qu'on est obligé de faire un encadré avec une liste pour réexpliquer les arcs narratifs et les jeux dans l'ordre.
Si vous avez 1000 petites heures devant vous environ...
Ça a l'air incroyable.
Vous pouvez suivre donc, les conseils de Corentin pour vous fadez toute la saga, les différents arcs. Enfin, c'est vraiment c'est très dense hein, comme franchise. Mais c'est vrai que moi, le studio s'occupe aussi des IS, YS.
Oui.
Ça, je connais un peu. Moi,
je connais de nom au moins. Oui.
Voilà, mais alors les Trails.
Au moins, les noms sont courts. Ça, j'aime bien, moi. Parce que d'habitude, les JRPG, les noms sont pas possibles.
Bon, c'est long quand même, là.
Non, mais je parlais de IS.
Ah oui, pour IS, oui. Non, mais anecdote, IS, c'était un cauchemar. Moi, quand je travaillais sur un site où il y avait une base de données.
Ah bah ouais.
Parce qu'il faut 3 caractères.
Quand t'en as que 2.
Et bah voilà, c'était l'enfer.
Et du coup, tu fais comment pour IS?
Bah, soit tu mets un espace derrière, mais il faut que tu l'aies prévu dans la base de données à la base, qui a un espace vide, sachant que du coup ça fait des trucs pas beaux en fonte. donc ouais, non, c'était chiant. Déteste. Rien pour ça, je déteste.
Non, je comprends. Je comprends complètement. Je passe rapidement juste pour parler du Director's Cut ce mois-ci, où Christophe t'a interviewé Hall Tillman, le directeur artistique d'Harold Halibut.
Tout à fait.
Qui est un jeu qui nous avait, en toute honnêteté, un petit peu déçu dans sa narration. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître une direction artistique assez magnifique. Enfin, moi, je trouve vraiment beau, le jeu.
Bon, en tout cas, singulière,
ouais. Ouais. non, mais moi, je trouve...
C'est pas tout à fait, là. Je suis plus team singulier que beau, moi.
Ah, moi, je trouve ça vraiment très beau.
Enfin, moi, c'est pas le genre d'esthétique qui m'intéresse.
Ouais.
Mais c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Mais ça m'accroche pas, moi.
Ah bah écoute, hein. Mais au moins, voilà, Christophe, quand il a interviewé le directeur artistique, il a pas dit « Ouais, bof, ton jeu... »
Il est singulier.
quoi d'autre, rapidement, De tout en la montagne.
Bah voilà, oui,
C'est bientôt l'été, donc évidemment, la montagne. Bah, écoutez,
moi, je préfère. Hein.
Toi, tu bats, oui, forcément. En vue subjective, Olivier revient sur Walden, a game.
Bon, oui.
Toujours.
Les jeux d'Olivier.
En fait, je pense que la rubrique devrait s'appeler.
Ça a l'air bien.
Ça devrait s'appeler Les jeux d'Olivier maintenant, tu sais, vraiment, avec un petit jingle.
Ça a l'air très bien. Mais j'aime bien les découvrir.
Ben oui, non, mais c'est vrai qu'on découvre toujours des choses. On termine toujours ce magazine par l'anti-sommaire, ce que vous n'avez pas lu. Dans ce numéro, alors il n'y a pas eu de cahier de vacances, c'est un numéro d'été sans cahier de vacances, parce que déjà on n'avait pas la place, parce qu'on parle déjà de plein de choses, puis on n'avait pas le temps, mais du coup...
Et on n'arrête pas de dire que c'est le numéro de la tristesse, on n'avait pas apporté du LOL.
Mais du coup, Kevin, tu nous as quand même trouvé un petit jeu, rapidement.
Ouais.
Un petit Locaroco. Vous vous souvenez des Locaroco? C'est quand on traduisait n'importe comment des titres de jeux.
Ah oui.
Tu te souviens? Ça y est. Il fallait retrouver. Et du coup, là, par exemple, au carrefour du Zef.
C'est quoi, ça?
Je l'ai pas. Je l'ai plus.
Au carrefour du Zef? Mais c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là.
Bah écoute, je sais pas.
Mais il sort d'où?
Mais quoi? Au carrefour on découvre Zef. Un truc.
Attends, c'est qui a fait ça?
Ah, mais il y a les réponses en dessous.
Je pense que... Attends, j'avais même pas fait gaffe. Attends, c'est pas ça, moi, que j'avais mis à la base. Je pense que c'est
Élise. Tu crois que c'est la célèbre Élise Lobier?
T'avais pas mis ça?
Ah non, j'avais pas mis ça. J'avais mis un truc nul, moi, mais...
Ah, tu vois.
Incroyable. Il y a Meka et Elisabeth Tessier, par contre.
Ouais, ça c'est toi, ça.
Ça c'est moi. Incroyable.
Ouais, t'avais mis quoi alors?
Moi j'avais. Je sais plus, faudra retrouver.
Incroyable.
Mais putain, c'est fou.
Faudrait vraiment qu'un jour on ait la chance d'avoir Élise Lebié autour de cette table.
Ouais. Et que je relise le Mac des fois aussi.
Ouais. Bien. Aussi, ouais.
Bah, en tout cas, cette page-là, effectivement, je ne t'avais pas revue. Et.
Carrefour.
Depuis. Qu'est-ce que j'avais mis?
Depuis 10 ans, Élise, elle rajoute des trucs en espérant.
Ouais, c'est ça.
Et personne s'en rend compte.
Bah voilà.
T'avais mis. Attends, ouais. Là où la viande souffle.
Oui. Oui,
ah oui, oui.
C'était la... oui.
Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui, j'ai lu ce truc.
Mais putain, mais ça m'étonne d'Élise qu'elle change autant le truc.
En tout cas, c'est pas moi.
Après, c'est bien, hein, ça marche.
Ah, mais... c'est mieux. Moi, j'avais joué sur un autre, une autre erreur de translation.
De translation. La fameuse translation. En voyant, on découvre des choses en direct. On s'arrête là, les amis.
Allez.
Et je crois que c'est un très long JV le pod, mais...
Bon, un poil plus long, mais
un poil plus long
on
d'habitude.
Est toujours sous l'heure.
Mais oui, sous l'heure.
Sous l'heure.
On va retourner se reposer. Pas du tout, on va retourner travailler. Mmh. Et on se souhaite bon courage. On vous souhaite peut-être bonnes vacances, à vous qui nous écoutez.
Oui.
Et puis, on se retrouve bientôt pour l'épisode sur le hors-série Game Boy.
Si bientôt.
Des bisous.
Ciao. Au revoir.